Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que Dieu soit glorifié. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Nous allons nous préparer à recevoir au travers la méditation de la parole de Dieu, autant la pensée du Saint-Esprit que la nourriture qui conviendra pour le besoin de nos âmes selon ce que notre Seigneur estime devoir nous donner ce matin, selon son plan béni de nous amener dans les pâturages célestes où il y a toujours ce qui convient, de la bonne nourriture pour nos âmes, mais aussi de la bonne boisson afin que nous soyons autant rassasiés que désaltérés. Nous venons de chanter ce cantique et pendant que les bien-aimés chantaient et glorifiaient Dieu, j'ai retenu simplement dans ce qui a été dit dans le partage, je chanterai gloire à l'Éternel, c'est ça, hein? Et j'ai retenu, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, mais même si je suis fragile, et même si c'est difficile, rien ne peut m'empêcher de donner gloire à l'Éternel, mon Dieu, amen. Et en donnant gloire à l'Éternel, mon Dieu, je donne gloire aussi à mon Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, nous allons voir dans les Saintes Écritures comment quelquefois, dans la vie chrétienne, dans notre vie comme enfant de Dieu, on peut se retrouver tributaire de certains choix que nous aurons faits. Et ces choix que nous faisons quelquefois, je mets entre parenthèses ce qui est non moins important, des choix que nous faisons quelquefois sans consulter Dieu. Je répète, des choix que nous faisons quelquefois sans consulter Dieu, et dont on se retrouve, au fil des temps, tributaire avec les conséquences qui en découlent. Et c'est là que malgré tout, frères et sœurs en Christ, malgré tout, la bonté et l'amour de Dieu à notre égard continuent cependant à se manifester. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'ai rêvé, ça ne vient pas de ma tête ni de mon esprit. Je vais vous amener dans les Saintes Écritures, alléluia. Et c'est dans les Écritures saintes que nous allons retrouver dans le livre de Ruth, une femme qui se retrouve maintenant, eh bien, dans un sillon de sa vie où, malheureusement, elle se retrouve veuve, elle est veuve, elle est étrangère dans un pays, et qui dit étranger dans un pays, nous savons le problème de la langue, de la culture, et de tout ce qui en découle. Mais malgré tout, elle va faire une déclaration. Et cette déclaration-là, je crois qu'elle peut être une réalité dans la vie d'un enfant de Dieu qui, comme je viens de vous le dire, peut se retrouver tributaire de ses choix et peut même se retrouver comme subissant les conséquences de ses choix. Mais malgré tout, étant objet de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, peut recevoir autant le secours dont il a besoin, le relèvement s'il le faut après avoir connu la chute, la guérison si autant l'âme est malade que le corps est dans la souffrance, que sais-je, Dieu sait, mais pour plus de clarté, regardons l'Écriture. Le livre de Ruth, nous le savons, c'est un récit qui se situe dans un contexte particulier. Et si nous voulons un peu placer le récit dans le contexte de l'époque, le deuxième livre de Samuel se termine ainsi par ces paroles. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ce qu'on appelle un petit peu, au jour d'aujourd'hui, dans le modernisme, on pourrait appeler cela de l'anarchie. Vous savez, il y a de l'anarchie sur le plan politique, mais savez-vous qu'il peut aussi y avoir de l'anarchie sur le plan religieux. Mais pire, cette anarchie, si cela se glisse dans le plan spirituel, là il y a un problème. Parce que quand je parle de ce qui est religieux, je fais mention de ce qui vient d'une institution humaine. Parce que il ne faut pas mélanger ce qui est religieux, ce sont les hommes qui parlent de Dieu. Mais ce qui est spirituel, c'est Dieu qui s'adresse à sa créature. Pas la même chose. Et quand Dieu s'adresse à sa créature, vous savez, notre Seigneur sait se faire comprendre. La preuve, vous êtes là ce matin. C'est parce que vous avez reçu son message, amen. Vous avez compris le message qui a été délivré lorsque l'évangile vous a été prêché. Et le Saint-Esprit entrant en action vous a mené, eh bien, à un processus spirituel béni. Repentance, conversion, nouvelle naissance, obéissance par les eaux du baptême et engagement à suivre Jésus-Christ sur le chemin de la persévérance sur lequel vous avez été placé depuis de nombreuses années pour certains, mais qui permet que Dieu permet que vous soyez là ce matin. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'indépendamment de ce que nous aurions connu, la main du Seigneur nous a toujours été en aide. Donc j'ai dit le livre de Ruth. Donc je vous ai un petit peu planté le décor, puisque c'est dans ce contexte-là qu'un homme nommé Élimélec, dont le sens symbolique de son nom signifie « mon Dieu est roi », accompagné de sa femme Naomi, dont le sens symbolique signifie « ma douceur, ma beauté », à cause d'une famine dans le pays, vont quitter Bethléem, maison du pain, vont quitter Juda, maison de la louange, pour aller faire un voyage en Moab, un pays ennemi. Et puis, lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, ils étaient partis pour faire un séjour. Mais le choix, c'est qu'ils se sont installés dans le pays. Il y a une différence entre faire un séjour et s'installer. Puis malheureusement, les complications ont commencé, tributaires de leur choix. Élimélec mourut. Et puis, les deux fils que Élimélec et Naomi avaient eus sont aussi morts. Le premier s'appelait Maclon. Le second s'appelle Kijlon. Alors je me suis posé la question, comment se fait-il que Élimélec, dont le nom signifie « mon Dieu est roi », s'alliant par mariage avec Naomi, ma douceur, ma beauté, dans la logique, il ne devait sortir que d'une telle union que des noms merveilleux avec des particularités, mais je crois que Dieu a voulu marquer dans les enfants Maclon qui signifie le chétif, le languissant, et Kijlon qui signifie le malade. Dieu a voulu marquer au travers de ses enfants ce qu'il voyait un peu dans la société en général. Oh, je ne les blâme pas. Dieu ne m'a pas établi pour blâmer quiconque. Parce que la trame, c'est voir comment Dieu va tirer au travers de certaines erreurs ce qui va constituer même à faire éclater sa gloire. Alléluia. Alors, regardons avec moi dans ce contexte-là ce que la parole de Dieu nous dit après que les deux fils soient décédés. Naomi va rester seule. Vous connaissez un petit peu son empressement pour dire à ses belles filles de retourner vers leur famille, leur pays, leur Dieu. Mais si l'une des belles filles retourne dans son pays, il y a une qui s'attache à sa belle-mère. Et c'est celle qui s'attache à sa belle-mère qui va nous intéresser ce matin, puisque étant attachée à sa belle-mère, elle va faire cette déclaration qui se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 2. Et nous allons regarder sa déclaration à partir du verset 13. Livre de Ruth, chapitre 2, au verset 13. Que le nom de Jésus soit béni, mes frères et mes sœurs. Ah, bien-aimés, bénissons Dieu ce matin de ce qu'un jour il a eu pitié et compassion de nous. Et dans ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi j'étais au rang de ceux qui vivaient sa vie selon ses penchants charnels. Je dois vous dire ce matin la vérité, je ne cherchais pas Dieu. Et dans ma manière de fonctionner, j'estimais que je n'avais pas besoin de Dieu dans ma vie. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question un jour, puisque je faisais une émission de radio, et au téléphone, il m'a dit, monsieur le pasteur, qui c'est qui a créé Dieu? Ah, quand il m'a posé la question, oh, j'aurais bien pu lui dire, monsieur, la question que vous posez, mais mon simplement, la dimension de l'enténébrement de votre esprit. Oui, quand vous posez une telle question, qui c'est qui a créé Dieu? Ça veut dire que vous êtes carrément plongé dans les ténèbres et dans l'ignorance. Je vais plus dire, monsieur, la question que vous posez non seulement démontre l'enténébrement de votre esprit, mais vous savez que quand vous posez cette question, dans le ciel, Dieu rit. Dieu rit, monsieur. Parce que la Bible me dit que Dieu se rit de l'insensé parce qu'il voit que son jour arrive. Ça veut dire que le jour où vous serez devant lui, vous allez lui poser la question, mon Dieu, qui c'est qui vous a créé? Et puis en plus, vous pouvez vous amener encore sur un autre terrain où la Bible nous dit non seulement que Dieu se rit de l'insensé car il voit que son jour arrive, mais je pourrais vous dire aussi que le méchant dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Il ne voit pas, il ne punit pas. Alors si je dis que Dieu n'existe pas, je vais diriger ma vie en faisant tout et n'importe quoi. Mais béni soit Dieu. Si l'insensé dit Dieu n'existe pas, le méchant dit Dieu ne voit pas, Dieu ne punit pas, Dieu sait ce qu'il est. Mais malgré tout, c'est ça qui est merveilleux. Malgré tout, il est capable de se révéler à quelqu'un qui ne croit pas en lui. Les agnostiques disent dans leur fonctionnement, ils ne savent pas si Dieu existe, mais ils ne savent pas non plus s'il n'existe pas. Le méchant, il dit Dieu ne punit pas, Dieu ne voit pas. L'insensé, enfin, c'est toute une philosophie qui leur appartient, mais c'est le résultat de l'esprit enténébré. Mais nous bénissons Dieu de ce qu'il a accepté de se révéler à nous. Amen. On n'est pas meilleur que les autres, mais bien-aimés, nous sommes ceux que nous sommes avec la grâce de Dieu. Voilà. Alors, lisez l'écriture avec moi, bien-aimés, voyez la déclaration de cette femme. Dans cette femme, pour que nous entrions dans le moment de la méditation de la parole de Dieu, en recevant la parole qui, ce matin, nous est destinée. Regardez avec moi. Et elle dit, celle qui dit s'appelle Ruth. Ruth déclare, oh, exclamation, oh, dites avec moi, lisez, que je trouve, alléluia, oh, que je trouve grâce à tes yeux, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. La raison, car tu m'as consolé, et en plus de m'avoir consolé, lisez ce qui suit, et tu as parlé au cœur de ta servante. Tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et cependant, et pourtant, allez-y, lisez. Et pourtant, Je ne suis pas moi. Je ne suis pas moi. Ruth, la Moabite, je ne suis pas quoi? Alléluia. Je ne suis pas comme l'une de tes servantes. Ça veut dire, je suis conscient que je suis une étrangère. Et malgré tout, tu m'as consolé. Et avec la consolation, tu as parlé à mon cœur. Mais nous sommes sur un terrain, frères et sœurs en Christ, merveilleux. Et j'ai appelé ce message la consolation par la manifestation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Voici une femme étrangère. Nous connaissons un petit peu son récit, la trame de sa vie et tout ce qui s'ensuit. Mais elle fait cette déclaration dans un moment particulier et c'est cette déclaration-là qui va nous servir de support non seulement à notre méditation de ce matin, et sa déclaration nous oblige à regarder ce matin, vous, frères et sœurs en Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, dans son ministère terrestre, quelque temps avant d'accomplir l'œuvre de la croix, avant de se diriger vers le mont Golgotha, va faire une promesse de la venue du Saint-Esprit qu'il définit comme étant le Consolateur. Par exemple, je l'ai vu dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 26, Jésus parle de la venue du Consolateur. Il parle aussi des attributs de ce Consolateur. Il en fait mention, par ailleurs, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, et aussi au verset 13, il parle de ce que le Consolateur fera lorsqu'il viendra. Et je me suis laissé aller à penser, pour m'approcher d'une définition qui serait la plus appropriée, pour voir ce qu'est un Consolateur. Et j'ai compris que le Consolateur, c'est celui qui, par sa présence, en agissant, va combler le vide laissé par l'absence. Vous dites amen à cela? Et quand Jésus parle ainsi, il sait qu'il va passer par l'œuvre de la croix, qui sera glorifié dans le ciel, mais il veut laisser cette parole pour montrer que le Saint-Esprit prendra le relais une fois qu'il sera parti. Et qu'en comblant l'absence, par sa présence, il va amener les mêmes attributions. Il fera exactement la même chose que Jésus-Christ ferait s'il était là, présent physiquement. Est-ce que Jésus est au milieu de nous ce matin? Alléluia. Il est là ce matin. Non seulement il est là, mais le Saint-Esprit est présent en action. Et qui peut mieux que le Saint-Esprit, le Consolateur, amener cette consolation là où il y a des besoins? Vous savez, on peut avoir besoin de la consolation parce qu'on a perdu un être cher, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des situations où, frappés par la souffrance, la douleur, le malheur, on a besoin que notre Seigneur nous donne une parole de consolation. Et Ruth, l'étranger, la Moabite, fait cette déclaration parce qu'elle est sur le terrain. Elle est rentrée dans un processus où Dieu est en train d'agir pour que non seulement elle ait la consolation par l'action que Dieu a entrepris, mais aussi elle fait mention, tu m'as consolé et tu as parlé à mon cœur. Qu'est-ce que vous penseriez, frères et sœurs en Christ, si au moment de la souffrance que vous vivez, d'une situation douloureuse, difficile à supporter, quelqu'un vient à côté de vous et puis là, il est là à côté de vous, il est là, bon. Il y a sa présence, mais vous n'avez pas besoin seulement de sa présence, vous avez besoin d'entendre une parole. Une parole qui correspondra aux besoins de votre cœur. Il va faire du bien à votre âme et qui va vous donner, eh bien, à recevoir des éléments appropriés pour que de plus en plus le Seigneur vous donne du soulagement. Et ce matin, je crois que mon frère, ma sœur, qui passe par un moment difficile dans ta vie comme enfant de Dieu, je ne parle pas, comme je viens de vous le dire, uniquement des situations de deuil. Il y a des moments où nous sommes éprouvés. Peut-être que ce matin, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes éprouvés. L'épreuve est là. Avec l'épreuve, on ne peut dissocier de l'épreuve la souffrance. Quelquefois dans l'épreuve, on se pose des questions. Et dans les questions qu'on se pose, il peut arriver que je me dise, est-ce que cela vaut la peine de continuer? Même certains vont me dire, mais depuis que je suis devenu chrétien, les choses sont encore plus difficiles qu'avant. Oui, mais la différence, c'est qu'avant, tu n'avais pas Jésus. Et qu'aujourd'hui, même si c'est difficile, d'après toi, mais ce n'est pas pire qu'avant. Pourquoi? La différence que maintenant, tu es objet non seulement de la grâce de Dieu, mais nous allons voir comment Dieu, lorsque nous sommes dans la souffrance, non seulement il intervient, mais il nous donne des éléments appropriés pour nous donner à relever la tête. Alléluia. Mon Seigneur, tu es là ce matin et tu connais tes enfants. Alors, regardez avec moi, mes bien-aimés. Donc, on a vu comment le Seigneur nous a parlé de, à travers ce récit, comment cette femme s'exprime. Mais son expression n'est pas autre chose, frères et sœurs en Christ, que la résultante de ce qu'elle a prononcé ou ce que la Bible nous dit dans le même texte, 8, 2, mais au verset 10. Regardez verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Comme nous le faisons ce matin, objet de l'adoration que nous sommes venus porter à notre Dieu ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ, elle se prosterne contre terre. Mais en se prosternant, sa bouche s'ouvre. Elle mentionne ce qui est dans son cœur. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une? Oui, la grâce de Dieu ce matin et la consolation dont tu as besoin t'est accordée. Pourquoi? Parce que Dieu te témoigne de l'intérêt. Bah, écoutez, quand je m'intéresse à quelqu'un, cela veut dire que je lui témoigne de l'intérêt. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Oh, il n'y a pas besoin de faire de grandes écoles, hein, je n'ai qu'à lire l'écriture. Hein. Dieu lui témoigne de l'intérêt. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes, hein, je suis une étrangère. Hein. Mes frères et sœurs en Christ, sur ce terrain-là, nous tous, nous serons unanimes de confesser avec le Saint-Esprit, ce que l'apôtre Paul déclare aux Éphésiens. Ou pasteur gentil. Mais attendez, je vous donne le verset. Vous voulez que je vous donne le verset ou pas? Mais vous n'avez même pas dit Amen. Je vous donne le verset. Bien. Oh, ce pasteur gentil, hein. Écoutez. Pasteur gentil, il est comme il est. Je ne cherche pas à faire plaisir à quiconque. Je suis simplement un instrument dans la main de Jésus. Et plus je marche avec mon Seigneur, plus je considère qu'il me faut rester à mon rang, à ma place, et le laisser lui se glorifier. On y va? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens, le chapitre 2, au verset 11. Regardez, et nous allons tous nous retrouver. Nous allons tous nous retrouver pour ce que nous étions. Et en lisant ces paroles, Éphésiens 2, au verset 11, c'est pourquoi Vous, autrefois, dites-le s'il vous plaît. Ah, païen. Autrefois, païen dans la chair. Appelé ainsi concis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, un rafraîchissement de vos mémoires. Et quand ma mémoire est rafraîchie, elle est obligée de s'arrêter en septembre 1983, où du sein de ma détresse et de ma misère, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Et en manifestant son amour et sa grâce, il m'a révélé Jésus, son Fils bien-aimé, comme étant l'auteur du salut qu'il avait préparé depuis les temps anciens. Et quand il est intervenu, il a fait deux choses. Il a détruit mon ignorance et il l'a remplacé par la connaissance. Alléluia. Alors regardez, frères et sœurs en Christ, pour que nous puissions bien glorifier Dieu ce matin. Est-ce que vous voulez glorifier Dieu avec moi ce matin, frères et sœurs? Oui, nous sommes là pour le glorifier, lui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Est-ce que nous étions sans Christ? Oui, même si nous avions la religion. Je vous ai dit que la religion parle de Dieu. Mais ce qui est spirituel nous révèle. Et c'est Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Amen. Sans Christ, privé de droit en Israël. Tout à l'heure avec la chorale, on a chanté cette cité céleste, amen, Israël céleste, amen. Il nous est réservé et d'où Jésus nous prépare cette place. Privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça veut dire, en un mot, nous n'avions rien. Perdu sous la tyrannie et l'autorité du péché, en route pour le jugement et la condamnation après la résurrection des impies, destiné à être mis dans le séjour des morts dans un temps, puis ressuscité, jugé, pour être jeté dans l'étang ardent de feu. Mais en marge de ça, quand Jésus nous a été révélé, il nous a montré qu'il y a un royaume. Alléluia. Oh, il nous a préparé une place et où se retrouvent ceux qui nous ont précédés dans la foi et où nous sommes appelés à être pour avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Mais verset 13, le ton change. Mais maintenant, mais maintenant en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, peine perdue. Mais en Jésus-Christ, oui. Maintenant en Jésus-Christ, quoi? Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Et je ne peux dissocier le sang de Christ de l'œuvre de rédemption parfaitement accomplie. Par le sang de Christ, œuvre de rédemption parfaitement accomplie, mais sans omettre de ne pas, ou sans dissocier de l'œuvre de rédemption tous les actes qui en découlent. Rédemption, expiation, propitiation, justification, alors appel divin, adoption et engagement à suivre mon Seigneur jusqu'à aujourd'hui et s'il me le permet, jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu veut me rappeler ce matin que moi qui étais étranger aux alliances de la promesse, qui était sans espérance et sans Dieu. Mais ça, c'était avant. Mais maintenant, alléluia. Maintenant, la grâce de Dieu me permet de comprendre que comme il a témoigné de l'intérêt à Ruth, il me témoigne de l'intérêt ce matin. Ça veut dire simplement, il veut me faire croire, comprendre que j'ai du prix à ses yeux. Si pour le monde, je suis simplement un numéro de matricule sur une carte vitale, un numéro sur une carte d'identité ou un passeport, Mais Dieu veut me rappeler qu'il me témoigne de l'intérêt. J'ai dû prier à ses yeux. Et en me témoignant de l'intérêt, faisant comprendre que j'ai dû prier à ses yeux, il me rappelle surtout que désormais, lorsqu'il m'a saisi, il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a affranchi et continue à m'affermir, il a fait littéralement une chose, c'est qu'il a lié désormais mon sort à celui de son fils Jésus-Christ. Oui, ma sœur. Il a lié mon sort à celui de Jésus-Christ. Alors, qui peut dissocier mon sort de celui de Jésus? Personne. Il y a un qui fait une sale tête ce matin. Il n'est pas content. Mais qu'il soit content ou pas, ça ne change absolument rien dans ce que Dieu a résolu et ça n'enlève en rien l'intérêt qui me témoigne ce matin. Cela s'appelle la consolation par le témoignage de l'intérêt que Dieu me porte ce matin. Deuxième consolation, dans la même tranche. Regardez, cela se trouve au verset 12. On n'a pas besoin de tourner les pages, hein. On reste dans le même texte. Verset 12. On lit, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais regardez la fin du verset 12. Lisez. Sous les ailes duquel tu es venu te... Mais voilà, lisez-le, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi, je refais la lecture parce que je ne suis pas content, vous ne l'avez pas lu avec moi. Moi, je veux que vous le lisiez avec moi. Je veux que vous y entriez. Allez, verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Nous appelons cela la consolation qui découle. Écoutez, moi je fais la maman poule qui ouvre ses ailes. Et vous ne voyez pas le petit poussin qui se réfugie là? Quand le petit poussin est réfugié sous l'aile de sa maman, quelle sécurité pour lui? Ah, mes bien-aimés, cette femme reçoit ce témoignage. L'Éternel te rend ce que tu as fait. Parce que tu as trouvé, tu es venu te réfugier sous l'aile de Dieu. Écoutez, quand moi je lis ça, ben je vois l'aile de Dieu. Je ne vois pas l'aile de l'avion, hein, mais je vois l'aile de Dieu. Dieu déploie son aile. Et sous son aile, trouve refuge une femme étrangère à qui Dieu témoigne de l'intérêt. Frères et sœurs en Christ, pouvez-vous comprendre cela ce matin? Que le Dieu Tout-Puissant déploie son aile pour qu'une étrangère y trouve refuge. Et vous savez que dans les Saintes Écritures, quelqu'un a parlé souvent du refuge qui s'appelle David. C'est dans l'Éternel, verset 1er du chapitre 11, le psaume 11, verset 1er, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Ailleurs, il dit, c'est en l'Éternel que je trouve un refuge. Alors, il pose une question. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Pourquoi? Parce que le méchant ajuste la flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre sous ceux dont le cœur est droit. Les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Réponse, alléluia, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Ses yeux regardent. L'Éternel sonde le juste. Et quand il voit que le juste a confiance en lui, sous son aile en refuge, alors là, le refuge devient pour lui le lieu secret de sa sécurité. Frère et sœur en Christ, mes bien-aimés, c'est ce Dieu qui est notre Père ce matin, qui nous témoigne de l'intérêt et qui, comme cette femme qui a été consolée, bien, tu as consolé ta servante et tu as parlé à mon cœur. N'est-ce pas ce que Dieu fait ce matin? Non seulement il te console, son action, mais il te donne une parole qui accompagne la consolation. Première pensée, la consolation, comme nous avons vu, verset 10, Dieu te témoigne de l'intérêt. Deuxième pensée, consolation, parce que Dieu t'a placé dans une place privilégiée, il déploie son aile. Parce que, laissez-moi vous dire que quand le poussin veut se réfugier sous l'aile de sa maman, vous savez ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? Allez! Mais il a besoin que la maman l'accepte. La maman gonfle ses ailes, le petit... Et là, il est en sécurité. Alléluia! Mais c'est une image, frère et sœur, en Christ qui est significative ce matin. Je te dis maintenant là, non seulement je te témoigne de l'intérêt, mais je déploie mes ailes pour que tu puisses y trouver refuge. Frère Gérard, souvent nous fait chanter ce cantique. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. C'est beau. Et le refrain dit, quel repos, quel repos, quel repos. Mais quel repos pour moi ce matin, d'être réfugié sous l'abri du Tout-Puissant. Le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia! Mais c'est notre place ce matin. Dieu nous témoigne de l'intérêt. Nous avons dû prier à ses yeux. Pourtant, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures, mais nous sommes en route pour quelque chose de glorieux, puisque notre foi s'accompagne de promesses, et toutes les promesses de Dieu pour nous sont amen, oui et amen, en Jésus-Christ. Le cantique de tout à l'heure qu'a chanté la chorale, « Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je tiens Dieu ferme. » Troisième source de consolation, toujours dans l'Écriture. Hein? 8, 2, verset 14. Livre de 8, chapitre 2, verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, qu'est-ce qu'il lui a dit? Approche. N'allez pas si vite, s'il vous plaît. D'abord, approche. Virgule. Après, mange du pain. Après, virgule. Après, virgule, s'il vous plaît. Virgule. N'allez pas si vite. Écoutez, je vous ai dit que dans les Saintes Écritures, quand vous lisez la Bible, même la ponctuation a son importance. Et je sais que vous, quelqu'un dit, mais pasteur gentil, vous nous parlez comme un professeur. Ah, mais justement, même la ponctuation a son importance. Parce que ce n'est pas par hasard que le texte est rédigé ainsi. C'est vrai, quand le Saint-Esprit inspirait l'auteur qui rédigeait l'Écriture, la dictée se faisait sous la direction du Saint-Esprit. Vous en voulez encore un exemple? Le psaume 121. Non, ne cherchez pas. Je vous amène sur le terrain pour que vous puissiez comprendre l'importance de la ponctuation. Le psaume 121. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Trois points de suspension qui signifient réflexion. Réflexion, question. D'où me viendra le secours? Réponse, le secours me vient de... Il a fait les cieux et la terre. Donc vous voyez bien que c'est important. Ceux qui sont des professeurs là, professeurs des écoles, etc. J'espère que moi, quand j'étais à l'école, quand le professeur ou le maître nous donnait une dictée, il n'allait pas en débiter un flot de paroles. Hein. Non, il prenait le temps. Il mettait un point pour marquer par la virgule, ou le point d'exclamation, ou le point d'interrogation, etc. Ça veut dire que tout avait son importance. N'est-ce pas, ma chère Christine? Alléluia. Écoutez, il y a au milieu de nous ceux qui sont dans l'enseignement, hein, donc ils me comprendront aisément. Je ne suis pas dans l'enseignement pour l'éducation nationale, je suis dans l'éducation pour Jésus-Christ. Amen. Allez, on y va. Bref, verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, deux points, ça veut dire qu'il va lui parler. Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Point. Alors, elle s'assit à côté des moissonneurs et on lui donna du grain rôti. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et elle se rassasia et elle jeta le reste pour les petits oiseaux. C'est extraordinaire, hein? Elle mange, elle se rassasie et elle garde le reste, non pas pour elle, mais le reste sera donné à sa belle-mère. Cela s'appelle la pratique de la miséricorde. Mais avant de nous intéresser à la belle-mère, intéressons-nous à l'attitude de Ruth. Celle à qui Dieu témoigne de l'intérêt, par la consolation. Celle qui, par la consolation, a été placée sous une place privilégiée sous l'aile du Tout-Puissant. Mais la Bible nous dit qu'elle mange. Et elle se rassasie. Avec quoi? Avec quoi a-t-elle mangé? Du pain? Mais il y a aussi une particularité, c'est qu'avec le pain, elle a aussi mangé du grain. Du grain? Ça veut dire que derrière ce grain rôti, frères et sœurs en Christ, vous serez unanimes de comprendre que si le grain est déjà rôti, ça veut dire qu'il n'est plus à cuire, mais il est déjà consommable. Il est déjà consommable. Écoutez, regardez avec moi un petit peu plus haut ou après. Dans 1 Samuel 17, ne cherchez pas. 1 Samuel 17, je vous le dis. Samuel va recevoir de la part d'Isaïe, son père, une direction. Et dans cette direction, il est chargé de descendre vers... Alors, je récapitule. David va recevoir d'Isaïe, son père, une direction. Dans 1 Samuel 17, Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour... » tes frères, c'est ça Miguel, cet effet de grain rôti, c'est 10 pains et c'est 10 fromages. Et cours vers tes frères, vers le camp, pourquoi? Parce qu'ils sont avec Saül dans la vallée des Térébintes, combattant les Philistins. Donc ça veut dire que le papa savait que ses enfants étaient sur le terrain de bataille. Et sur le terrain de bataille, si les âmes sont affûtées, quelquefois le ventre peut crier famine. Alors ça veut dire que le père donnait à David ce qui était déjà utile pour être consommé par ses frères, afin que cela soit pour eux des ressources renouvelées pour qu'ils puissent combattre avec efficacité. Une autre image. Dans le livre de Josué, Israël rentre en Canaan, n'est-ce pas? Et arrivé en Canaan, le lendemain de la Pâque, ils ont mangé du blé du pays. Mais le blé du pays était accompagné de grains rôtis. Vous savez, derrière cette expression grains rôtis, Dieu nous donne tout ce qui sera utile et nécessaire pour qu'en le consommant, nos ressources soient renouvelées. Non pas autant sur le plan physique, pour nous ce matin c'est spirituel. Et quel grain rôtis, mieux que les saintes écritures, non seulement aura cette capacité, puisque nous avons lu, lorsqu'elle a mangé, elle a été rassasiée. La parole de Dieu, c'est un rassasiement pour mon âme ce matin. Ça veut dire que même si je suis éprouvé, même si j'ai besoin de consolation, cela s'appelle la consolation par les saintes écritures. Alléluia. Oh, frères et sœurs en Christ, quand tu passes par un moment difficile, quand le ciel te déreint, quand les vents te sont contraires, ne te mets pas à rouspéter ni à maugréer. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans les saintes écritures. Et Dieu sera assez grand pour tirer de l'écriture la parole qui conviendra pour que ton âme non seulement soit nourrie, elle soit désaltérée, que tu sois consolé et que tu attendes dans l'espérance la sortie du tunnel. Gloire à Dieu. On récapitule. Consolation parce que Dieu te porte de l'intérêt ce matin. Est-ce que tu le crois? Consolation parce qu'il t'a placé sous le refuge, sous son aile, lieu secret de ta sécurité. Troisièmement, consolation parce que Dieu va nourrir ton âme de sa parole. Je voudrais vous donner encore dans la même tranche ce qui est mentionné dans les saintes écritures. Par exemple, j'ai noté dans Romains, là je vous invite à le lire avec moi, dans Romains 4:15, je crois. J'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que je n'ai pas noté ce verset, mais je crois, non, Romains 15:4. Voilà, Romains 15:4, si je l'ai noté, est-ce que je dis je l'ai noté, Romains 15:4. Allez, regardez. Romains 15:4. 15:4. Romains 15:4. Or, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la... Afin que par la patience et la... consolation que donnent les Écritures. Les Saintes Écritures, c'est comme du grain rôti qui, quand tu le manges, non seulement te rassasie, mais t'apporte aussi la consolation dont tu as besoin. Alléluia. Là, nous sommes sur le terrain où, dans la bouche de Jésus, nous avons souvent entendu des paroles dites à propos. Alléluia. Ne pleure pas, mais crois seulement. Ne crains point. Mais crois seulement et elle sera sauvée. Alors, est-ce que les paroles de Jésus prononcées ont été suivies des faits? Oui, toujours. Parce que Jésus ne dit jamais quelque chose pour nous laisser livrer à nous-mêmes. Il dit la parole, il nous dit de ne pas craindre, mais de croire, et après, il se met à agir en conséquence. Gloire à Dieu. Et puis, il y a un autre texte. C'est 1 Corinthiens 2:9. Et puis nous allons tout doucement vers le quatrième et dernier point. J'en ai noté 4. Et dans cette même tranche de pensée, lors du prochain partage, si Dieu le veut, nous allons tourner un volet pour nous arrêter, frères et sœurs en Christ, sur un sujet où nous allons voir comment la grâce de Dieu est capable de descendre dans les plus profondes bassesses de la misère de l'homme. Regardez, j'ai dit quoi? 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ah, j'ai oublié l'oreille? Bon, alors je recommence alors. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ah, j'avais omis l'oreille. Et que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alors, l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et puis, il continue, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit dans l'homme qui est en lui, etc. Ça veut dire que Dieu veut te dire ce matin qu'il connaît la situation qui est la tienne. Et comme il connaît ta situation, il a décidé de te consoler. On voit le dernier point? Ça va toujours, bien-aimé? Alléluia. Vous savez, vous connaissez le pasteur gentil. Hein? Une fois que Jésus lui a donné sa pensée, qu'il vient vers vous, c'est le moment où on ne joue pas la comédie. Avec Jésus, on ne joue pas la comédie. La comédie, c'est pour les comédiens. Et un comédien joue un rôle. Et en jouant le rôle, il y a une mise en scène. Et en jouant le rôle, il va essayer d'appliquer dans son rôle un scénario préparé d'avance. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Alors, le dernier point va nous amener maintenant dans 8, chapitre 4, verset 13. Ça va être simple. Mais même si c'est simple, ce n'est pas pour cela que c'est non moins efficace. Parce qu'avec le Seigneur, des choses simples sont chargées de grandes bénédictions. Amen. Alors, regardez le dernier point. Alors, aidez-moi. 8, 4, verset 13. Alors, livre de 8, chapitre 4, au verset 13. Gloire à Dieu. Oh, béni soit le nom de Jésus. Alors, je récapitule. Nous avons vu le premier point. Consolation, parce que Dieu te témoigne de l'intérêt. Deuxièmement, consolation, parce que Dieu t'a placé dans le refuge sous son aile. Troisièmement, consolation par les saintes Écritures. Et voici le dernier point. 8, 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint, devint sa femme. Et il alla vers elle, point, l'Éternel, dites avec moi, permis. L'Éternel permis à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Alors, comment définirions-nous, frères et sœurs en Christ, pour conclure le message, cet aspect de la consolation? Je vous laisse la réflexion et je vous laisse faire la déclaration. Allez, on est ensemble ce matin, n'est-ce pas? Alors, voulez-vous travailler avec moi? Pardon, ma soeur? Consolation par la bénédiction. C'est gentil, ma petite soeur. C'est gentil ce que tu dis, mais ce n'est pas ça. La grâce de Dieu, oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Consolation par la révélation, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Par la foi, pardon? Consolation par la fécondité, c'est bien, Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Ah, mon frère Saint-Ange, j'ai entendu de ta bouche. Plus fort. Ah, Saint-Ange, dis-le plus fort, s'il te plaît. Ah, consolation par l'alliance. Ah, merci, mon frère Saint-Ange. Enfin, merci, Seigneur, tu as permis que mon frère Saint-Ange soit inspiré du Saint-Esprit. Mais écoutez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Reprenons le texte. Boaz prit Ruth, qui devint. Ah ben voilà, vous avez la réponse. Écoutez, si tu as pris une femme et qu'elle est devenue ta femme, ça veut dire que tu es ma. Et si elle est mariée, ça veut dire qu'ils ont fait A. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit? C'était simple, mais je voulais faire, je fais lire l'écriture. Mais la réponse est dans la question, dans la lecture que vous avez faite. Ils ont fait alliance. Alors ce matin, Dieu veut te faire comprendre que malgré le fait que tu es éprouvé, malgré le fait que tu connais la souffrance d'une certaine manière, soit tu te retrouves tributaire de certains de tes choix dont tu payes encore les conséquences, et des fois c'est difficile, mais malgré tout, alléluia, puisque tu es objet de son alliance, alors il vient à ton secours. Alléluia. Il vient à ton secours. Mais non seulement tu es objet de son alliance, il prit, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Vous l'avez lu, hein? Mais regardez la suite. Regardez la suite. Et Dieu permit à Ruth de. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière concevoir? Alors, je vais maintenant continuer. Travaille un petit peu là. Prospérité, oui, mon frère Miguel, dis un petit peu ce que je voudrais entendre. Dites-moi simplement s'il y a alliance. C'est malgré le fait que tu es éprouvé, ça n'empêche que Dieu permet que tu portes du. Ah ben voilà. Parce que même si tu es éprouvé, ça n'empêche en rien que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Et l'épreuve que tu vis, le combat que tu mènes, la consolation dont tu as besoin, Dieu même, au sein de ta souffrance, peut permettre que le témoignage de Jésus soit rendu pour que tu portes du fruit. Prions le Seigneur.